VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h, temps universel. Bonsoir, bienvenue en République centrafricaine. Baisse des tensions à Bangui après les violences qui ont fait au moins 36 morts depuis samedi. Des troubles qui vont affecter les perspectives électorales dans le pays, selon le chercheur et consultant d'Amnesty International, Jonathan Pedeno, au micro de Tatiana Amosso.
On s'attend maintenant évidemment à un report supplémentaire. La présidente a annoncé que la feuille de route électorale ne tenait plus la route finalement. Évidemment, présentement, la violence qu'on voit actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est que la MINUSCA, qui est présente sur le terrain, n'a pas su rapidement gérer la situation. Les forces françaises ont dû intervenir à de nombreuses reprises, soit en appui à la MINUSCA ou même en remplacement de la MINUSCA à certains moments, selon les informations qu'on a pu obtenir. Donc ça, c'est véritablement ce qui nous préoccupe pour l'instant, parce qu'on a une forte présence des forces internationales en Centrafrique, et malgré ça, on se retrouve néanmoins avec un bilan là, qui frôle les 50 morts, des centaines de blessés, des bureaux humanitaires d'organisations internationales qui sont pillés. Donc c'est extrêmement préoccupant pour nous.
À l'occasion de cette 70e Assemblée générale de l'ONU, une réunion spéciale sur la République centrafricaine doit se tenir. Regrettez-vous que des ONG comme la vôtre n'y soient pas conviées?
Il est certain que les ONG ont une place à prendre hein, au sein des concernant donc, l'Assemblée générale. Concernant la Centrafrique plus spécifiquement, eh bien souvent les ONG hein, ont de meilleurs accès aux informations et sont souvent plus proches des populations civiles. Il est évident que dans des forums comme celui-ci, donc concernant la Centrafrique, il aurait évidemment été bien que les ONG aient leur place et aient leur mot à dire dans les décisions. Après, il y a énormément de rapports qui sont produits par ces organisations, des organisations telles que la nôtre. Je pense que ces rapports sont assez bien distribués. Je pense que les délégués sont au courant de nos demandes en espérant que nos observations se rendent aux bonnes personnes.
Enfin, un dernier mot sur ce rapport d'Amnesty International qui vient de sortir. C'est un rapport sur le diamant centrafricain. Qu'est-ce que votre rapport apporte de nouveau par rapport à ce qui a déjà été publié ces dernières années?
Alors, cette enquête qui a été menée, qui a été une enquête très large, qui s'est déroulée en Belgique, aux Émirats arabes unis, au Cameroun et en Centrafrique, démontre qu'encore aujourd'hui, les diamants centrafricains amènent des bénéfices en fait aux groupes armés qui parviennent à trafiquer ce diamant à l'extérieur de la République centrafricaine et parfois à l'exporter à l'intérieur même du processus de Kimberley qui, on se le rappellera, est supposé évaluer l'origine de ces diamants, s'assurer que ces diamants ne constituent pas des diamants de sang. On s'est aperçu donc avec ce rapport qu'il peut être arrivé à certains moments que des diamants centrafricains aient été exportés avec de faux certificats du processus de Kimberley en passant à travers le Congo ou le Cameroun. Et donc évidemment, c'est extrêmement préoccupant parce que ces diamants continuent à financer les activités de ces groupes armés qui commettent les violences qu'on voit aujourd'hui à Bangui et dans le reste de la Centrafrique.
Jonathan Pedeno, contacté à New York par Tatiana Mosso en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. En République démocratique du Congo, la démission du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, fait encore des vagues, bien que le PPRD, la formation du président Joseph Kabila, qualifie cette décision de non-événement. La réaction du président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Gabriel Kyungu wa Kumwanza, au micro d'Edi Sango.
C'est du moment où certains commence même à penser à tripatrier, à revoir la Constitution. Là, ça nous inquiète. D'abord, je lui rends hommage en tant que membre du G7. Je lui rends un vibrant hommage parce qu'il a démontré combien il est un homme de parole, un homme sérieux. Deuxièmement, effectivement, il a constaté que dans les camps de la majorité, il n'y a pas l'honnêteté. Une sorte de malice, mensonge et hypocrisie. Voilà pourquoi il a trouvé que ce n'était pas un milieu où il pouvait rester.
Monsieur Moïse est resté ambigu quant à une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour confirmer une candidature à l'élection présidentielle?
Non, pas nécessairement. Concrètement, nous voulons dire au niveau du G7, que jamais la majorité ne s'est prononcée pour l'alternance, c'est-à-dire le changement des hommes qui sont en place, remplacés par les autres et par le système électoral. Par contre, il se trouve des hommes divins, des hommes providentiels.
Vous accusez les autres membres du pouvoir d'entretenir un flou quant aux élections. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? Ou quelle est votre position par rapport à ces élections? Est-ce que vous avez un candidat pour le G7 à la prochaine élection?
Là n'est pas le problème. Le problème, c'est le respect de ce que notre constitution que nous avons nous-mêmes adopté tous. C'est ça que nous voulons. Nous voulons qu'on respecte cette constitution, qu'on accepte qu'il y ait l'alternance politique. Ce n'est pas parce que nous avons un candidat à présenter, encore que c'est notre droit, mais ce que nous voulons est que les règles du jeu soient respectées.
Gabriel Kyungu Wa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga en République démocratique du Congo. L'Union européenne a adopté aujourd'hui des sanctions contre 4 personnes dont les actions compromettent la démocratie et ou font obstacle à la recherche d'une solution politique à la crise au Burundi, selon un communiqué. Les sanctions avec les détails doivent être publiées au journal officiel de l'Union européenne demain vendredi, selon le communiqué.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, le gouvernement de transition souligne que la conquête par les troupes loyalistes mardi du camp de Nabakoum II, bastion des putschistes du régiment de sécurité présidentiel, et respect à Ouagadougou, n'a fait aucune victime. Le témoignage de notre correspondant Zoumana Ouendougou, qui a visité le camp mercredi.
Sur place, les constats ne donnent pas lieu à un champ de bataille de désolation. Seulement, des portails défoncés par-ci, des guérites calcinées par-là, pas de cadavres qui jonchent la place. Le président de la transition, Michel Kafando, explique cela par le professionnalisme de l'armée burkinabé.
Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis.
Le Burkina Faso revient de loin et cette crise RSP porte en elle le nouveau Burkina, selon les mots du président Michel Kafando.
L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Une page de notre histoire est ainsi tournée.
Zoumana Ouendougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Bénin s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire avec les élections présidentielles du 28 février 2016. En témoigne la pléthore de candidats à la présidence, un phénomène qui inquiète la société civile béninoise. À Cotonou, le compte-rendu de notre correspondante Ginette Fleur Adandé.
Encore quelques mois et les Béninois iront voter pour choisir le prochain président de la République. Mais déjà, des intentions de candidature se font connaître et certains, sans se prononcer encore, sont sollicités de part et d'autre comme étant les seuls capables de sortir le Bénin de l'obscurité du développement, du bourbier infernal, des grèves perlées, du chômage et de la légèreté du panier de la ménagère. Mais les acteurs de la société civile ne comprennent pas pourquoi, pour une démocratie aussi jeune et pour un pays si petit qu'on ait déjà plus d'une cinquantaine de candidatures. Et à l'allure où vont les choses, les Béninois pourraient se réveiller au matin des campagnes électorales avec une centaine de candidats prêts à briguer la magistrature suprême. Beaucoup de candidats pour quelle qualité en termes de débat politique? C'est la crainte de certains.
Cette multitude de candidatures devrait permettre qu'on ouvre les vrais débats de la nation, les vrais débats du développement.
Le Bénin veut des gens qui doivent vraiment apporter un plus au Bénin et non ceux qui vont venir encore toucher au minimum, au peu qui reste là. Non.
Plusieurs candidats pour un seul fauteuil présidentiel. Pour le Béninois lambda, les candidats ont intérêt à avoir un projet de société qui prend en compte les réalités des populations et qui s'inscrit dans la continuité.
C'est vrai que beaucoup de chantiers ont été ouverts. Il ne s'agit pas de venir dire on jette tout ça à l'eau et on recommence. Il faut que ce soit un président qui est ce souci-là, parce que diriger un pays, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans.
La jeunesse, pendant les périodes électorales, reste la frange de la population la plus manipulée. Selon certains, elle doit se réveiller et jouer son rôle de gardien des valeurs démocratiques pour une relève de qualité.
Aujourd'hui, quand vous allez vers la jeunesse, ou quand vous rencontrez les jeunes et que vous leur parlez, ils veulent savoir, mais le monsieur dont vous parlez, il a l'argent? Le monsieur dont vous parlez, il y a combien d'opérateurs économiques derrière lui? Le monsieur dont vous parlez, qu'est-ce qu'il peut me faire tout de suite? Et quand vous convoquer les réunions sans payer le déplacement, soyez convaincus qu'à la prochaine, vous ne verrez plus personne.
Et c'est ça qui est malheureux. Moi, j'invite toute la jeunesse à se dire, 2016 ne nourrira aucun jeune. Le jeune doit se mettre au travail.
Au soir du 28 février prochain, les Béninois seront situés sur le probable successeur de Thomas Boniyayi. Mais en attendant, la classe politique béninoise doit faire une toilette assidue en son sein pour dégager des candidats nantis d'une certaine potentialité pour diriger le pays. De Cotonou, Ginette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.